Bonsoir. Exploitation minière en RDC. Une enquête menée par FIFER DRC, une ONG britannique, révèle que 59 compagnies fictives exploitent frauduleusement les minerais de la RDC dans les îles Vierges de la Grande-Bretagne et de Gibraltar. Selon cette ONG, les transactions effectuées entre la RDC et ses compagnies ont rapporté de grands avoirs à ces entreprises. Quelle analyse faire des conclusions de cette enquête? Pour en parler, nous recevons Herman Nzeza, représentant spécial de l'ONG FIFER DRC pour la RDC. Monsieur Nzeza, bonsoir.
Bonsoir.
Franck Fouamba, fondateur et directeur général de la revue Mining News Magazine et membre du comité directeur de la société civile du Katanga. Monsieur Fouamba, bonsoir.
Bonsoir.
Lui, il est en ligne, c'est Lems Kamoigna, coordonnateur adjoint du projet d'appui au secteur des mines ProMine, une structure qui dépend du ministère des Mines du gouvernement central. Monsieur Kamoigna, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous, chers auditeurs et internautes, pour vos multiples réactions. Ibrahim de Kisangani en province orientale, ce n'est pas étonnant que ce rapport soit ainsi. Cela complète le chapelet des contrats léonins décriés par plus d'un Congolais. Les députés ont du pain sur la planche. Pacifique Mango de Lubumbashi au Katanga, cette enquête confirme les guerres qui ne se terminent pas en RDC. Bref, nos autorités doivent prendre conscience des souffrances que nous subissons en lieu et place de leurs intérêts. Heureux de vous savoir très nombreux à nous suivre, merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
59 compagnies fictives exploitant frauduleusement les minerais de la RDC ont été dénichées dans les îles Vierges de Grande-Bretagne et Gibraltar. C'est le résultat d'une enquête menée par un parlementaire britannique, Eric Joyce. Son ONG FIFER DRC, représentée à Kinshasa, l'a fait savoir hier au cours d'une conférence de presse. Selon lui, des transactions effectuées entre ces compagnies et la RDC ont rapporté des grands avoirs à ces entreprises, dont quelques-unes apparaissent à la Bourse de Londres. Le représentant spécial de l'ONG FIFER DRC pour la RDC affirme qu'une bonne partie de ces compagnies appartient à un homme d'affaires juif qui entretiendrait des relations d'amitié avec le sommet de l'État congolais, d'où son appel aux politiques congolais et à la société civile de lutter pour la transparence dans le secteur minier en RDC. Askenzik Batayoro revient sur l'essentiel de cette communication.
L'ONG FIFER DRC prend en exemple les quatre de ces entreprises fictives pour démontrer aux Congolais comment la RDC perd des millions de dollars dans les transactions minières. L'exemple frappant est celui de la compagnie Rhône Asset. D'après l'ONG britannique, cette société n'a ni activité ni avoir. Elle a acheté l'année passée à 120 millions de dollars les avoirs du gouvernement de la RDC estimés à 20% dans le mine Mutanda où sont exploités le cuivre et le cobalt. Juste une année après cet achat, le 20% des parts de la RDC ont généré à cette entreprise fictive de revenus de l'ordre de 178 millions de dollars. En termes clairs, Rhône Asset gagne en une année seulement un bénéfice de 58 millions de dollars. D'après les informations en possession des FIFER DRC, les avoirs que le gouvernement congolais a vendus moins cher dans l'ombre s'évaluent en réalité à 850 millions de dollars comme revenus devant être gagnés au cours des 20 prochaines années.
Merci Askenzik Batayoro. Herman Nzeza, je rappelle que vous êtes représentant spécial de l'ONG FIFER DRC pour la RDC. Votre ONG accuse le gouvernement congolais de vendre secrètement des ressources de l'État aux compagnies fictives et à des prix de loin en dessous de leur valeur réelle. Quelles sont les preuves que vous détenez à ce sujet?
Merci de nous avoir invités pour aller tout droit dans le vif du sujet. Nous sommes de ceux qui pensent que la liste est crédible et les informations que nous avons ont été confirmées par les entreprises comme Glencore qui a acheté les mines auprès de Rhône Asset et qui opère dans la Bourse de Londres. Et en même temps, en dehors de la liste des directeurs britanniques qui opèrent dans ces mines, nous avons des transactions financières qui ont eu lieu entre la RDC et ces deux territoires britanniques. Donc nous avons des éléments que nous aimerions mettre en disposition des autorités congolaises et plus précisément des députés congolais qui pourront se retrouver autour d'une commission d'enquête que nous souhaiterons avoir, voire être mise en place.
Alors, vous accusez, je pense également directement, le sommet de l'État congolais d'être en connivence avec un homme d'affaires juif qui détiendrait la plus grande partie de ces entreprises fictives.
Oui, mais effectivement, ça a été confirmé partout. Il y a eu un procès qui a été finalement réglé à l'amiable avec Dan Gettla, de lui qu'il s'agit, au niveau de Grande-Bretagne, mais aussi tous les quatre contrats qui ont fait perdre la RDC plus de 5,5 milliards ont tous été tournés autour de ces hommes d'affaires qui est M. Dan Gettla. Alors, qu'est-ce que nous disons? En même temps, il a été questionné, c'est-à-dire Global Witness lui a envoyé des questionnaires. Il a reconnu être ami du chef de l'État, tant même quand bien même il nie que cette amitié lui facilite l'octroi de ce contrat. Mais nous trouvons ça curieux. Et voilà pourquoi nous demanderons qu'une enquête soit menée tout autour de ses activités à RDC, mais aussi que le chef de l'État puisse prendre des distances quand il s'agit d'un homme qui est devenu trop controversial dans le monde des affaires ici, dans ce pays.
Alors, nous allons nous en tenir également au principe de l'émission. On ne cite pas les noms des personnes qui ne sont pas là et qui ne peuvent pas se défendre. Cela dit, j'ai sous les yeux la lettre ouverte que vous avez adressée au président de l'Assemblée nationale, lui demandant de mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Mais en la lisant, j'ai quand même été frappé par le ton qui est très fort. Qu'est-ce que vous attendez d'une pareille démarche?
Le ton est très fort parce que la misère qui se vit dans ce pays est aussi très forte. Imaginez ce que vivent les Congolais à travers le pays. Imaginez dans quelle situation se trouvent les fonctionnaires, les femmes des militaires, les enseignants, les populations qui vivent entre les coups de feu dans les territoires du Kivu. Tous ces mondes-là méritent justice. Et je pense que les revenus que la RDC est en train de perdre à cause de ce genre de transactions mérite d'être dénoncé à des termes les plus virulents. Je pense que nous ne sommes pas encore allés trop loin dans notre langage, parce que nous espérons que le choc va faire réagir le gouvernement dans le sens positif en essayant d'arranger cette situation. Mais sinon, ça sera plus pire que ça.
Alors, dans la conclusion de cette lettre ouverte adressée au président de l'Assemblée nationale, vous affirmez que le gouvernement se trouve en infraction pour violation de ses obligations clés envers le FMI qui aiderait à arrêter cette activité.
Évidemment, parce que qu'est-ce que nous constatons? En 2009, le Fonds monétaire international a donné un prêt à la RDC à la hauteur de 551 millions de dollars. Mais ce prêt a été assorti à des conditions, dont la publication de tous les contrats entre l'État congolais ainsi que les investisseurs ou les entreprises privées. Deuxièmement, il fallait désormais qu'il y ait une transparence dans l'octroi des contrats qui devait se faire à la place publique pour que tous les intéressés puissent en bénéficier au lieu de le faire en cachette, mais aussi la mise en place d'une commission indépendante anti-corruption. Et finalement, il fallait accéder à un programme d'extraction d'industrie de transparence qui est dirigé par Clark Schott, qui est une fois de plus une ancienne ministre britannique qui s'occupait du développement international. Mais aucune, curieusement, de ces conditions n'a été satisfaite, à tel point que c'est curieux. Et en même temps, on continue à prendre l'argent du contribuable congolais et à aller le mettre dans des territoires étrangers en complicité avec les autorités locales. C'est ce qui nous amène à faire pression aujourd'hui. Et surtout le fait que, au niveau de Grande-Bretagne, les autorités, les parlements ont déjà commencé des actions dans ce sens pour arrêter cette prédation.
Célestin Poutou, qui nous écrit d'ici Rouen, province orientale, dit « Parler de fraude minière au Congo n'est pas vrai parce que rien n'échappe au contrôle de nos dirigeants. Là où le bas blesse, il ne s'attaque qu'au kiosque des Congolais qui se démènent pour la survie au lieu de s'attaquer à l'essentiel. » Herman Zéza.
Mais je suis d'accord avec lui à la deuxième partie qui petits pas des kiosques de Congolais. J'en ai été témoin moi-même à la Levette avant-hier où 3 kiosques ont été brûlés et à côté j'ai trouvé des mamans, des jeunes garçons assis au sol, par terre, en train de réfléchir évidemment ce qu'ils vont faire cet après-midi-là et évidemment les jours suivants. C'est très regrettable et il est aussi en partie vrai que la fraude est organisée par l'État lui-même qui vend à vil prix et à des entreprises sans actifs, sans expertise et qui n'a même pas d'investissement des entreprises volontairement. Et c'est ce qui est regrettable. Et en plus, ces ventes n'apportent pas quelque chose de plus dans la création d'emplois qui devaient bénéficier nos populations locales. Tandis que à côté, nous avons des entreprises qui ont de l'expertise, qui pouvaient investir, qui ont un renom, qui sont connues, qui pouvaient prendre ces marchés, mais ils n'arrivent pas à avoir ça à cause de cette situation.
Lemska Moigna, vous êtes coordonnateur adjoint du projet d'appui au secteur des mines promines, structure qui dépend du ministère des mines du gouvernement central. J'emprunte ces mots à Herman Zeza, la fraude est organisée par l'État lui-même, en d'autres termes, l'État congolais se volerait lui-même.
Non, laissez-moi d'abord revenir sur les conclusions de ce rapport, parce que vous vous rappellerez qu'il y a quelques temps, nous avons débattu presque du même sujet avec l'ONG Global Witness, qui est également une ONG britannique. Et là, aujourd'hui, on rentre encore sur une autre ONG britannique qui nous parle des îles Vierges britanniques, c'est-à-dire un endroit qui a été créé par la Grande-Bretagne, où on crée des sociétés écrans, où on crée des sociétés qui n'ont aucune obligation légale, c'est comme quelqu'un qui construit sa parcelle et il met des appartements où il va loger des voleurs. Et ensuite, quand les voleurs volent, au lieu de s'attaquer aux voleurs, il dit non, des gens qui se font voler, pourquoi vous vous laissez voler alors? Moi, je crois qu'il y a quand même une contradiction, parce qu'il n'existe pas des dispositifs institutionnels où on permet des sociétés écrans qui n'ont rien, qui construisent ce qu'on appelle aujourd'hui des paradis fiscaux ici en RDC. Ça, c'est la première des choses. Je crois que cette ONG ferait mieux, et peut-être il va encore revenir. Il nous dit qu'il y a eu un procès qui a été réglé à l'amiable à Londres. Ça, c'est quand même trop curieux. Moi, je pense qu'il faut attaquer le mal par la racine. Si j'ai fait un raisonnement par analogie, on a vu les Occidentaux aller envahir l'Afghanistan parce que ce pays a été considéré comme étant les fiefs et les refuges des terroristes. Il fallait couper le terrorisme à la racine. Ils ne sont pas allés vers les pays qui étaient attaqués. Pourquoi aujourd'hui on doit continuer à entretenir des îles vierges britanniques, là où se retrouvent des gens qui créent des sociétés fictives, qui bénéficient des libéralités, où on loge des paradis fiscaux, et ensuite on va chercher à aller condamner les pays qui se font parfois escroquer par ces personnes-là et qui mettent les avoirs dans des pays qui sont connus. Je crois qu'à un moment donné, il faudrait qu'on sache exactement ce que nous voulons faire. Si ces ONG veulent nous aider, qu'ils commencent par attaquer le mal à la racine. Pourquoi ne pas fermer ces paradis fiscaux des îles Vierges britanniques-là auxquels on nous fait allusion chaque jour? Et des deux, quand il parle de l'État congolais qui se vole lui-même, je reviens sur le cas de Mutanda Mining parce qu'on a évoqué à plusieurs reprises au niveau du gouvernement congolais, je crois, le gouvernement a bien dit que c'était une transaction qui avait été effectuée par la GECAMIN. Avant que la GECAMIN effectue cette transaction, la GECAMIN avait demandé l'expertise de BNP Paribas. C'est avec cette expertise que la GECAMIN a pris l'option de faire quoi? De vendre ses actions. Maintenant qu'on nous dit que ces actions ont été vendues à vil prix, je crois qu'il faudrait qu'on mette des actions pour voir est-ce qu'au niveau de la GECAMIN, les gens l'ont fait de manière délibérée. Est-ce que l'évaluation qui avait été faite par BNP Paribas était faussée? À ce moment-là, on ne peut pas d'emblée conclure que c'est l'État congolais, ce n'est pas au sommet de l'État où on se travaille pour dire, écoutez, c'est pas vous les vendez à autant. Il y a une démarche qui a été mise en place par une entreprise publique. Donc moi, je réfute d'emblée qu'on dise que c'est une escroquerie organisée au sommet de l'État. Non, ça a été une transaction faite par la GECAMIN qui dispose d'une autorité et des structures de gestion qui sont tout à fait autonomes et différentes de l'État. Peut-être qu'il appartient à l'État congolais aujourd'hui de diligenter une enquête auprès de la GECAMIN pour qu'on puisse revoir toute la transaction qui a été effectuée et voir pourquoi ces actions ont été vendues à un prix qui est considéré comme bas. Et ensuite, en tant que financier, laissez-moi vous informer que en matière de transactions boursières, vous pouvez avoir une action qui coûte 10$ aujourd'hui, que vous pouvez revendre une année après à 100$, tout comme l'action peut vous coûter 10$ aujourd'hui, une année après vous la vendez à 5$. C'est lié au mouvement des cours boursiers. Et chaque fois vous voyez comment il y a des spéculations sur les marchés boursiers. Donc ça, ce n'est pas étonnant, mais s'il y a enquête, l'enquête est à faire au niveau de la GECAMIN pour qu'on revoie un peu tout l'historique de la transaction qui a été effectuée au niveau des Mutanda Mining. D'emblée, comme ça, on ne peut pas condamner l'État congolais sur ce point.
Alors, Lems Kamwanya, vous intervenez une fois de plus après cette réaction qui nous vient de Bukavu Sud Kivu pour vous.
Benjamin Kitoko de Bukavu au site Kivu. Même s'il y avait une exploitation minière non frauduleuse, la vie du Congolais resterait la même à cause du manque de la volonté politique de la part de nos autorités.
Réaction Lems Kamwanya.
Oui, moi je pense il y a également à nuancer là-dessus. Je crois que la grande faiblesse que nous avons, c'est notre loi minière. C'est pourquoi actuellement il y a les plaidoyers pour la retouche du code minier. Je vais vous donner un exemple très simple. Même sociétés qui ont été répertoriées. Nous avons la loi sur les sociétés qui oblige que pour constituer une société, une SARS, société par action de souveraineté limitée, il faut qu'il y ait au moins 7 associés. Et généralement, lorsque les sociétés vendent des actions ou ils négocient une transaction, la société se présente seule. Au moment de la constitution, on amène d'autres sociétés. On en a vu des sociétés qui sont d'ailleurs répertoriées. Vous pouvez voir 4 ou 5 sociétés qui sont enregistré à la même adresse. Donc, ils appartiennent carrément à une même personne. La deuxième faiblesse, vous savez que dans notre code minier, si moi j'achète une action d'une société minière aujourd'hui, quel que soit le prix auquel je veux les revendre, la cession est payée à 1 000 $. Et on a vu beaucoup d'entreprises venir au Congo, signer des contrats de partenariat, avoir des actions. Au lieu d'investir dans la production de cuivre exporté et accroître la production congolaise, recruter et engager des gens, créer des emplois, les sociétés vous disent mieux vaut investir en bourse qu'investir en brousse. C'est-à-dire ils vont aller faire des spéculations au niveau de la bourse que produire réellement des richesses. Et quand ils font ces spéculations, quels que soient les millions, des centaines de millions qu'elles vont gagner, elles ne payent que 1 000 $ pour chaque cession à l'État congolais. Ce sont des choses que nous-mêmes sommes en train de décrier. Nous disons, nous devons modifier le code minier qui a été trop libéraliste, qui a donné beaucoup d'avantages. Et il y a actuellement des petits malins qui exploitent les faiblesses qu'il y a dans la loi congolaise. C'est pourquoi Merci. Il est vraiment urgent et même impératif que ce code minier soit le plus rapidement possible corrigé afin d'éviter que les gens viennent, ils prennent des actions, au lieu d'investir au pays, ils préfèrent aller faire des spéculations boursières, c'est taper de l'argent parce qu'ils connaissent que derrière tout ça, l'État congolais ne gagne rien et il n'y a pas de production, il n'y a pas d'emplois qui sont créés.
Merci Lems Kamwanya. Franck Fomba, vous êtes fondateur et directeur général de la revue Mining News Magazine et membre du comité directeur de la société civile du Katanga. Vous avez suivi Herman Nzeza de Freefair DRC ainsi que Lems Kamwanya. Quelle est votre analyse à ce niveau?
Merci Alain. Mon analyse sera beaucoup plus générale et globalisante. J'ai suivi l'ami de l'ONG Freefair DRC parler. J'ai suivi l'EMS parler. Je pense que dans les deux interventions, il y a croisement. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Freefair DRC fait son rapport à propos des compagnies enregistrées dans les îles Vierges britanniques. Il s'agit très bien. Les îles Vierges britanniques sont un territoire d'outre-mer britannique, dont le chef d'État est la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II, avec un gouverneur, avec un premier ministre, avec la langue qui est l'anglais, la monnaie qui est... Donc avec tout, c'est un État normal. Et c'est un État des Caraïbes. Donc, d'emblée, quand on dit que les sociétés sont fictives, moi je vais dire que les sociétés ne sont pas fictives, parce qu'elles sont officiellement enregistrées dans un pays normal.
Identifiable.
Il y a le code, il y a l'indicatif téléphonique, il y a le domaine internet. Les îles sont identifiables. C'est une entité politico-administrative identifiable. Les opérations sont-elles faites frauduleusement? Des minerais de la RDC à partir des îles Vierges. Là, j'ai dit pas tellement. Pourquoi? Allons dans le code minier. C'est là que je dis que je soutiens l'EMS, qu'il y a des faiblesses dans le code minier. Quand nous allons à l'article 23 du code minier, l'article 23 est clair. Il parle de certaines conditions d'éligibilité pour exploiter les mines en RDC. Il suffit d'avoir élu, d'avoir un domicile, et on décrit comment il faut élire un domicile. Vous allez auprès d'un avocat, des mandataires à mine, par écrit, vous déclarez votre adresse. Et je sais que les sociétés dont on parle ont élu domicile en RDC. Je retourne à l'opération Mumi qui a eu lieu. Au lieu de parler beaucoup plus de Ronnie Assets, moi je me suis beaucoup plus posé la question. Glencore est partenaire par Samref d'Amoun, partenaire de la Chicamine. Parce que la transaction avait été révélée par Glencore lors de son IPO, pendant qu'elle voulait entrer en bourse. Glencore a la chasse et à la recherche du cuivre et du cobalt. Ils savent qu'à Mutanda, il y a beaucoup de cobalt et de bonne qualité. Pourquoi est-ce que Glencore n'avait pas exercé son droit de préemption? Parce que qu'est-ce que dit le droit de préemption? Quand le partenaire veut vendre ses actions, le partenaire qui est avec lui dans le partenariat doit être intéressé. C'est ainsi que vous avez vu, il y a un procès. Le procès qu'il y a eu entre le groupe Forest et la Gécamine autour des MSK. Parce que la Gécamine a dit, écoutez, au nom du droit de préemption, nous ne pouvons acheter. Pourquoi est-ce que Glencore, qui a de l'argent, plus Coroni, Glencore, qui était déjà dans le partenariat, qui est intéressé, qui connaît le gisement, n'a pas acheté les parts directement de la Gécamine, a laissé, n'a pas exercé son droit de préemption, et a voulu racheter après par Roni. Sur la liste de Free Fed DRC, Roni appartient à une société de quelqu'un, un juif que l'on cite. Or, si vous raisonnez très bien, qui ne dit pas que Roni peut appartenir à Glencore? Parce que Glencore n'a pas appliqué son droit de préemption, alors qu'il pouvait bien appliquer son droit de préemption. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, vous savez, quand on parle des îles Vierges, les îles Vierges ont une très mauvaise connotation parce que ce sont des paradis fiscaux. Mais écoutez Alain, il n'y a pas que les îles Vierges qui ont paradis fiscal. Il y a trop de paradis fiscaux. Savez-vous que pour l'immobilier, la Belgique est un paradis fiscal? Savez-vous que pour les investissements internationaux, Singapour est un paradis fiscal? Je pense que l'essentiel pour le moment, dans le cas qui nous concerne, l'essentiel, j'aurais souhaité que Free Fair DRC aide à faire un audit, ou plutôt une vraie évaluation technique. Parce que, vous savez, quand on me dit par exemple que la mine de Kansuki a été vendue à moins cher, mais la mine de Kansuki est encore en prospection.
Alors, vous le dites vous-même, Franck Fomba, mais il y a beaucoup de paradis fiscaux, mais cela justifie-t-il le fait, comme vous le dites, de brader certaines entreprises ou certaines concessions minières?
C'est ce que j'évoquais. J'ai dit, on me dit par exemple que Kansuki a été vendu à plus cher, à moins cher. Vous savez, nous avons fait des simulations, on a discuté avec des amis, on faisait des simulations. Effectivement, les simulations, on les fait par rapport, on dit, les réserves déclarées seraient d'autant. Vous prenez autant de temps de réserve déclarée. Vous prenez le cours actuel du cuivre. Vous calculez le royalties. Vous disiez non, vous dites non, voilà, au cours actuel, on aurait, quand on a le royalties de 2,5 $, avec tel tonnage, vous faites les calculs. C'est ainsi qu'on arrive au milliard. Mais est-ce que la mine de Kansuki aujourd'hui, on connaît exactement ce qu'elle donne? Personne, parce que c'est une mine en prospection. Moi, je dis ceci. Je veux bien que on parle au nom des solutions à l'exploitation minière de la RDC. Et c'est là que j'ai dit que les Américains ont été très courageux avec la loi Dodd-Frank. Parce que la loi Dodd-Frank oblige les entreprises américaines qui lèvent l'argent en bourse et qui lèvent l'argent et de déclarer la section. En RDC, on parle beaucoup plus de la section 1502. Parce qu'elle concerne le coltan et les autres minéraux. Mais il y a la section 1504 qui oblige les entreprises à publier ce qu'elles payent et ce qu'elles investissent dans les pays étrangers, afin qu'il y ait transparence sur ce qu'il y a eu. Donc je pense que l'Europe, la Grande-Bretagne, aiderait la RDC en allant beaucoup plus dans des mesures très draconiennes à l'endroit de ses propres territoires, au lieu de s'attaquer à un gouvernement, à un pays qui, en principe, si la RDC a été bradée, les richesses bradées. C'est-à-dire, comme a dit Lems, on a été victime de nos propres tupitudes, même si on ne peut pas s'en prévaloir.
Alors juste une précision avant de redonner la parole à Herman Zeza. À Franck Fomba, cette enquête de Free Fair DRC, elle se justifie-t-elle?
Toutes les enquêtes se justifient parce que le secteur des ressources naturelles de la RDC, on se rend compte que nous avons des multinationales, des transnationales, qui font ce qu'elles font. Et comme je l'ai dit dans une émission avec Agathe sur Radio Okapi, le gouvernement congolais a droit de connaître ses véritables ressources. C'est ainsi que je dis, si on va dans le sens d'aider la RDC à connaître ses vraies ressources, je soutiens l'enquête. C'est une bonne enquête. Mais si c'est juste pour condamner ce qui a été fait, je ne partage pas totalement le point de vue parce que il faudrait qu'on parte en profondeur et qu'on donne les données, qui sont inattaquables. Vous savez, Alain, il y a eu beaucoup de rapports dont les données étaient attaquées par après, c'est pas tellement intéressant.
Herman Teza, réaction.
Oui, je réagirai tout d'abord par rapport à ce que M. Lems a dit. Il pense que les entreprises créées sont dans les îles Vierges britanniques. Il faut commencer à faire quelque chose
à ce niveau-là.
Mais voilà pourquoi nous sommes ici, parce que ces dossiers, cette liste des 59 entreprises ont été recueillies par Eric Joyce, qui est au fait le président du groupe parlementaire de tous les partis qui se trouvent au Parlement britannique et qui ne s'occupent que des questions des Grands Lacs. Et c'est le plus grand groupe parlementaire qui a plus de 200 députés et l'autre, sénateur et sénateur. Il a pris ces dossiers, il les a transmis à la commission permanente du Parlement qui s'occupe du développement international. Et cette commission va mener une enquête approfondie sur ces citoyens britanniques. Et l'un des membres de cette commission, l'honorable Pauline Latham, parce qu'ils ne sont que 11, il a dit si l'argent qui est dilapidé à RDC restait, ça pouvait servir le peuple congolais. Et ils sont là pour s'assurer qu'ils permettent à des pays pauvres d'avoir une vie meilleure. Ils mènent une enquête. Les citoyens britanniques qui sont impliqués seront convoqués. Et quand ils sont convoqués, c'est sous serment qu'ils parlent. Les cas échéants, il y a des procédures judiciaires qui vont suivre. Mais il ne s'est pas arrêté là. Eric Joyce a envoyé la liste de ces entreprises à ce que nous appelons Serious Fraud Office, qui va voir les côtés criminels de ces contrats. Et déjà, si vous n'êtes pas au courant, Glencore a été interpellé. Les directeurs de Glencore ont été questionnés et ils ont été même menacés d'être visités dans leur bureau pour faire des enquêtes. Pourquoi tout ça? Parce que quand Glencore a signé cet accord, on a constaté qu'il y a eu plus de 6 chefs exécutifs qui sont devenus des billionnaires en si peu de temps. Vous dites que ce n'est pas l'État qui organise tout ça. Entre nous, la Gécamine, c'est une entreprise privée? Soyons sérieux. Alors, lorsque la Gécamine signe ce contrat, vous croyez que l'État ferme l'œil? Entre nous, la population est en train de souffrir. Allons plus loin. On parle de code minier, on parle de code forestier. Ça, ce sont des documents. Mais dans le comportement de l'homme congolais, son dirigeant, quand il pose des actions, quand il empêche, comme l'a dit M. Franck, à des entreprises sérieuses, dont peut-être Glencore est l'une d'entre elles, à aller directement acheter des actions dans Gécamine. À qui la faute? Donc, il y a des entreprises intermédiaires que nous appelons des fictifs qui d'abord récupèrent ces parts pour en faire des bénéfices en vendant à Glencore, en vendant aux autres entreprises. C'est ça que nous condamnons. Alors, comme il y a des actions au niveau de Grande-Bretagne, nous souhaiterions qu'au niveau local, que les autorités congolaises mènent les enquêtes et punissent ceux qui font cette spéculation. Voilà notre démarche.
Herman Zeza, on sait que le gouvernement congolais a entrepris beaucoup d'efforts pour freiner l'exploitation illicite, illégale des minerais, des ressources naturelles. À entendre l'enquête de Freefair DRC, visiblement, tous ces efforts n'ont pas encore porté leurs fruits.
Tous ces efforts n'ont pas encore porté leurs fruits. Parce que nous venons de découvrir une autre entreprise, un autre accord qui vient d'être signé. Malheureusement, je n'ai pas encore eu de détails. Ça m'a été envoyé hier avec l'Internet qui n'est pas à haut débit. J'ai eu du mal à suivre les documents. Mais je vous dis, ça n'a pas encore porté des fruits. Et cette prédation continue. Et au niveau des paradis fiscaux, donc faites allusion à Gibraltar, effectivement, sur notre territoire, les gens seront poursuivis. Tout le monde est dans cette direction. Mais nous voudrions voir le Parlement congolais se mettre aussi derrière cette situation. Et je suis content que M. Lems l'a évoqué, mon frère Franck l'a évoqué, qu'on peut faire des enquêtes pour voir à quel niveau la Gécamine a bradé à vil prix des séparés. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui risque de venir. Donc il faut que ça s'arrête.
Voilà, merci Herman Ndeza. Je rappelle que vous êtes représentant spécial de l'ONG Free Fair DRC pour la RDC. Lems Kamwanya, vous avez suivi Herman Ndeza, tous les efforts fournis par le gouvernement congolais pour freiner l'exploitation illégale, illicite des minerais en RDC n'ont pas encore porté leurs fruits. Quelle est votre réponse?
Non, je crois qu'il faut qu'on distingue. Lorsque nous parlons de l'exploitation illégale des ressources minières et le commerce illicite qui en découle, c'est au moment où on s'intéresse aux produits de l'exploitation minière artisanale, principalement dans les provinces de l'Est. Et je crois, là, Franck Fambala a évoqué, avec la loi d'Aude-Franck, ça a permis d'arrêter un peu ces mouvements où on voit les groupes armés exploiter illégalement les ressources naturelles et utiliser les fonds qui provenaient de ces commerces illicites comme un fonds de guerre pour perpétuer la guerre qui sévit particulièrement dans les provinces de l'Est. Ça, c'est un cas à part, et sur ces points, je vous dis, c'est des phénomènes de société, et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à arrêter ces processus. Hein. Ce n'est pas du café instantané, c'est tout un processus, et l'État congolais est en train de mettre en place et déployer plusieurs instruments. Il y a le mécanisme de traçabilité qui s'est fait avec le concours des ITRI, qui siège d'ailleurs à Londres. Nous avons actuellement, le gouvernement congolais est en train de vouloir lancer l'utilisation du certificat régional de la CRGM. Il y a les cas de l'OCDE qui voudraient venir disséminer les guides sur les devoirs de diligence. Donc il y a autant d'instruments internationaux et même nationaux qu'on est en train de déployer pour arriver à avoir la traçabilité des minerais. Et c'est tout un processus, ça ne peut pas commencer aujourd'hui et arrêter l'hémorragie aujourd'hui, il faut y aller de manière progressive. Parce que vous savez, il y a toujours un gré de réponse entre les moments où vous lancez une action et les moments où vous commencez à avoir des résultats. Ça, c'est du côté de l'exploitation minière artisanale. Mais par rapport aux grands contrats tels que ça se déroule, moi je suis content de voir qu'il y a des enquêtes qui se passent là-bas pour qu'on arrive à arrêter ça auprès de ces personnes qui viennent signer des contrats ici, des grands contrats, et qui aurait d'investir fonds de spéculation boursière. Et exactement comme l'a dit M. Franck Fambaka, on compare, on dit l'État congolais a perdu 5 milliards. Non, ça c'est des théories, on regarde, on vous dit dans les 20 prochaines années. Qui peut savoir les cours de cuivre ou du cobalt dans 4 ou 5 ans? Qui peut anticiper? Quels seront les niveaux d'écoute? Donc c'est autant d'hypothèses qu'on essaie d'établir aujourd'hui, mais qui ne représentent pas des vrais chiffres. Mais le grand problème, c'est de savoir, est-ce qu'au moment où on a signé ce contrat, la valeur à laquelle on a cédé ces actions, est-ce que cette valeur correspond à la valeur réelle qu'il y a sur les marchés? Si elle est sous-estimée, quels sont les éléments qui ont fait que cette valeur puisse être sous-estimée? Je crois que ce sont les éléments des enquêtes qu'il faudra arriver à faire. Et la solution dans le cadre des grands contrats, on l'a toujours dit, et c'est une solution qui rencontre un peu en partie leurs recommandations, c'est éviter que les contrats, les grands contrats soient signé de gré à gré. Il faut procéder par appel d'offres, parce que quand il y a appel d'offres, vous avez, toute la procédure est transparente. Vous connaissez quelle société se présente, c'est quoi son capital, elle exploite où, elle est basée où. Et quand les sociétés sont mises en concurrence, il y a vraiment beaucoup de possibilités de ne pas tomber sur des sociétés qui n'ont pas pignon sur rue et qui vont chercher à acheter à vil prix pour aller brader plus tard. Je crois que ça, c'est la grande solution qui est d'ailleurs reprise dans la loi sur les marchés publics où on dit que désormais, tout ce qui appartient comme actif à l'État pour être aidé doit passer par une procédure d'offres ou d'offres d'État. Je crois
que Lems Kamwanya, ce qui s'est passé avant. Lems Kamwanya, la qualité de votre ligne se détériore un peu. Si c'est possible de vous déplacer un tout petit peu pour que cela s'améliore. Je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint du projet d'appui au secteur des mines Promine, une structure qui dépend du ministère des Mines du gouvernement central. Franck Fomba, Lems Kamwanya a parlé déjà des solutions. Il faut procéder par appel d'offres pour éviter le gré à gré. Mais il y a des auditeurs également qui ont leurs propositions. Prenons celle-ci qui nous vient de Butembo au Nord Kivu pour vous.
Carlos Benka de Butembo au Nord Kivu. Pour que la dénonciation du pillage de nos minerais ait un sens, les ONG qui s'y livrent feraient mieux d'initier une action en justice internationale contre les auteurs de cette pratique odieuse.
Franck Fomba.
À propos de l'appel d'offres, avant de revenir à la réaction de l'auditeur de Butembo, le code minier aussi clair à l'article 33. Le code minier dit ceci. Le code minier organise la soumission exceptionnelle à un appel d'offres de certains gisements étudiés, documentés, éventuellement travaillés par l'État ou par ses organismes considérés comme un actif d'une valeur d'importance connue. Nous avons aujourd'hui, Alain, le problème dans notre secteur, comme je dis. Nous avons un problème de la connaissance de nos vrais gisements, de nos vraies
ressources.
Vous savez, aujourd'hui, la plupart, je vis sur le terrain au Katanga, la plupart des sociétés qui viennent sont obligées de refaire certaines études, des études pour confirmer les ressources qui leur ont été communiquées. Vous avez vu avec le contrat Sicomine, qui est appelé abusivement contrat chinois. Ça avait pris du temps. Pourquoi? Parce que les deux parties devaient se mettre ensemble sur les réserves qui avaient été données. Donc, l'appel d'offres, le code minier qui régit, il dit qu'il y a des situations exceptionnelles. Et quand vous partez de l'article 33, vous descendez, vous allez voir comment ça s'est fait. Donc, ce n'est pas automatique pour tous les gisements. Personnellement, j'ai dit qu'un gisement comme Kansuki, je ne vois pas pourquoi il fallait faire l'appel d'offres, personnellement. Parce que ce n'est pas un gisement de grande valeur. Ce n'est pas connu, ce n'est pas documenté, on est en train de faire des recherches. Je retourne à un problème qui est sérieux et que l'on doit considérer. Notre pays est indexé par la communauté internationale. Quand on fait sortir le rapport Doing Business chaque année, on nous indexe à la queue. Et demain, quand on nous indexe à la queue, ça donne la peur aux entreprises sérieuses de venir investir. J'ai vu BHP Billiton faire des années au Katanga dans l'exploration. Après, ils n'ont pas investi. Ils n'ont pas développé une mine. Ils ont dit, écoutez, on a le cuivre d'à peu près 3%, tout ça, on ne peut pas le faire. Alors que les gens traitent les régions au Katanga aujourd'hui. J'ai vu Anglo-American aller dans l'Est, dans le secteur aurifère. Anglo-American, Anglo-Gotan, ils ont traîné l'été pour investir. Mais aujourd'hui, on a Randgold qui investit. Aujourd'hui, on a Moine Africa qui, on a Bandro qui sont là. J'ai vu DBS, officiellement connu comme Debise au Kasaï, dans le diamant, qui a pris, qui a gelé pour développer des gisements. Rien n'a été fait. Quand on dit que le Congo est un pays à risque, on dit officiellement aux majeurs n'allez pas y investir.
Et c'est dangereux.
Et c'est très dangereux. Je suis désolé que ceux qui disent aux majeurs de ne pas investir, ils se mettent encore pour dire qu'on est en train de piller. Vous savez qui investit au Congo aujourd'hui? Ce sont les mineurs qui prennent les risques. Dans les affaires, on prend les risques. Et il faut encore saluer les gens qui prennent les risques pour venir investir au Congo. Parce que l'opinion que le nom du Congo n'est pas une bonne opinion à l'extérieur. On dit que c'est un pays à très haut risque. Quand les mineurs viennent investir, ils investissent. À un moment, il faut qu'ils lèvent beaucoup de capitaux, qu'ils aient de l'argent. Les mines, Alain, nécessitent de l'argent. On ne fait pas les mines avec peu d'argent.
Alors, notre auditeur de Butembo, Carlos Benga, a proposé par exemple que Frifer DRC initie une action en justice internationale contre les auteurs de ces pratiques odieuses. Quelle est votre réaction?
Bon, les pratiques odieuses, vous savez, bon, moi j'ai mon entendement des pratiques odieuses. Vous savez, comme j'ai dit, moi j'ai une vision un peu globalisante, pratique sur le terrain. Je veux bien qu'on initie une enquête. Non pas pour le plaisir de faire, non pas pour plaire à une opinion, mais qu'on dise par exemple, bon voilà, les gisements qui avaient été vendus à Moumi, on les a bradés par exemple parce que BNP Paribas a mal conseillé, les gisements de Kansuki ont été mal vendus parce qu'ils avaient été mal conseillés, et voilà les gisements ce qu'ils devaient être, non pas sur les suppositions, sur les hypothèses,
mais plutôt sur les faits.
Sur les faits voilà. Actuels.
Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur général de la revue Mining News Magazine et membre du comité directeur de la société civile du Katanga, c'était Franck Fouamba. Il nous reste moins de 7 minutes déjà pour terminer l'émission. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de l'auditeur Frifer DRC d'initier par exemple une action en justice internationale?
L'auditeur n'a qu'à se tranquilliser parce que nous, à notre niveau, nous avons fait pression au gouvernement et au Parlement et aujourd'hui il y a une procédure qui a commencé. Il n'y a pas longtemps, je pense moins d'un mois, l'un des plus puissants gouverneurs de Delta Province au Nigeria venait d'être écroué de 10 ans de prison pour money laundering, c'est-à-dire blanchiment d'argent, et il y a eu des enquêtes. Et actuellement, il y a une enquête en cours qui concerne celui qu'on appelle Rupert Murdoch. C'est un Australien qui vit aux États-Unis, qui est le chef de News Corp, qui est un des grands médias internationaux, et son fils et sa secrétaire, tous y sont poursuivis et des chefs de police ont démissionné et j'espère qu'après cette action-là, il y aura ces dossiers. C'est-à-dire, c'est déjà un débit. Donc, il y aura des gens qui seront appelés à venir faire des testimonies et l'action va continuer. Mais nous ne voulons pas le faire seul. Je ne pense pas que Afrifer DRC, nous, Congolais qui sommes membres et les Britanniques qui sont membres, nous aimons plus les Congos plus que les autres s'associent aussi. Mais ce que je voulais dire, un petit commentaire par rapport à ce que M. Frank a dit et que...
Très rapidement, parce qu'il nous reste beaucoup de temps.
Oui, et qu'il y a des entreprises qui viennent, qui regardent. Et pendant qu'ils sont là en train de faire les études, comment agissent nos autorités tout autour de ces entreprises-là? Il y a des entreprises qui protègent leur réputation auprès des bourses, qui ne veulent pas s'engager à des contrats problématiques, et ils se retirent. Alors, ceux qui n'ont nothing d'avoir
non,
peur,
rien.
N'ont rien, ils viennent, ils signent des accords en complicité avec soit l'État ou des personnalités. Voilà pourquoi il faudrait qu'une enquête, pour que ce qui a été fait puisse être mis au clair et que ça va venir, que ça ne continue pas.
L'Emskamonia, Jean-Pierre Batundi de Kaina au Nord Kivu dit, je pense que pour améliorer ce secteur, il faut que notre gouvernement crée des grandes associations minières comme la GKMI dans chaque province pour décourager cette exploitation illégale des minerais.
Oui, je pense que c'est une des solutions, mais la vraie solution, c'est d'abord qu'on commence par connaître la valeur de nos gisements miniers. Parce que vous ne pouvez pas vendre quelque chose pour lequel vous ne connaissez pas la valeur. Je crois que tous les débats est là. Si aujourd'hui l'État congolais investit davantage dans l'amélioration de la connaissance géologique, si l'État congolais connaît suffisamment la valeur de ces gisements miniers, à ce moment-là, que ces gisements appartiennent à l'État ou possédés par une de ces entreprises, au moment de la vente, on vendra quelque chose qui est connu, qui a été précédemment évalué. Mais tant que ce n'est pas connu, c'est-à-dire les valeurs qui sont établies procèdent plus de négociations et de spéculations entre la valeur de la personne qui veut acheter et la valeur de la société qui veut céder. Je crois que ça, c'est une des solutions. C'est un plaidoyer que nous sommes en train de faire pour que ces gouvernements mettent des moyens pour qu'on arrive à améliorer les niveaux de connaissances géologiques de nos minéraux.
Alors, en guise de conclusion, l'Emskamonia, on a l'impression également qu'il y a beaucoup de tâtonnements autour de la révision du code minier. Ça fait beaucoup de temps qu'on dit qu'il est dépassé, mais concrètement, on a l'impression
que
ça traîne.
Non, il n'y a pas de tâtonnement. Je crois que sous l'impulsion du ministre des Mines, qui a été reconduit dans ses fonctions, il y a déjà une commission qui travaille sur la mouture du code minier révisé. Après la commission qui siège au niveau du ministère des Mines, cette commission sera étendue à l'ensemble d'autres ministères et services publics qui sont directement liés par la question minière. Il y aura discussion avec la société civile ainsi que les secteurs privés avant que la mouture finale ne descende sur la table du gouvernement. Avec beaucoup de chance, au mois de mars prochain, je crois que le projet du code révisé sera examiné au niveau du Parlement.
Et entre-temps, on assistera encore à des mafias par-ci, par-là?
Non, parce que le cas dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. Vous êtes témoin que ça fait 6 mois qu'on débat du même sujet. La transaction des Moumi, ce n'est pas aujourd'hui ou hier qu'elle s'est passée. Ces rapports ne viennent qu'apporter des informations complémentaires sur Merci. Quelque chose qui a déjà été cédé il y a plus d'une année. Et pour le moment, il n'y a pas de transactions mafieuses qui se réalisent.
Merci.
Je crois que c'est ça la réalité. Le problème, c'est que on capitalise au fait toutes les mesures qui ont été énoncées, qu'on capitalise au fait toutes les recommandations qui ont été faites pour
Merci.
Arriver à améliorer le niveau des transactions que l'État congolais avec les entreprises publiques fasse plus
Merci.
Attention au moment.
Merci, l'Emskamonia. Permettez que je vous arrête pour donner la parole à Franck Fouamba. Franck Fouamba, il faut connaître les vraies ressources, réviser le code minier. Au-delà de tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre en guise de solution?
Au-delà de tout cela, il faut le nationalisme. Il faut le patriotisme. Il faut que chaque Congolais considère que ce pays lui appartient et que c'est le meilleur héritage qu'il vive dedans, qu'il vive à l'étranger. C'est le meilleur héritage que nous ont légué nos parents, nos grands-parents et que nous devrons léguer à nos enfants. Il faut qu'on ait la conscience nationale. Je suis content qu'on ait créé un ministère de la nouvelle citoyenneté. Et je pense que le ministère de la nouvelle citoyenneté va apprendre aux Congolais que nous sommes d'être des vrais citoyens, des patriotes. D'être des vrais nationalistes. Parce que vous savez, dans tout ce qui se passe, vous savez, les sociétés ne peuvent pas venir du dehors, venir faire les opérations ici sans qu'il y ait complicité des Congolais. Et vous savez aussi, la société civile, quand elle est patriote, quand elle est nationaliste, elle n'est pas seulement dans les supputations, dans les hypothèses, elle fait un travail de fond parce que c'est l'intérêt général.
Merci.
Qu'on comprenne que le Congo, c'est un patrimoine commun.
Merci. Herman Zéza, un mot pour conclure.
Oui, je suis d'accord que nous sommes d'accord, nous sommes d'accord avec M. Lems, deux points. D'abord, il faut des enquêtes sur les contrats qui posent problème, mais aussi que les prochains contrats soient octroyés après appel d'offres.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.